Xavier Delaporte. Bonjour Xavier. Vous voulez faire le point sur ce qui change et ce qui ne change pas. Vous avez 5 minutes.
Ouais, bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la fin des années 90, j'avais un couple de grands-parents très âgés. L'un né en 1909, l'autre en 1918. Un jour, mu sans doute par un élan de solidarité intergénérationnelle et l'idée généreuse et naïve que j'allais dissiper le brouillard que les progrès de la technologie installaient entre eux et le monde, j'avais entrepris de leur expliquer Internet. C'est très compliqué d'expliquer Internet à quelqu'un dont le Minitel prend la poussière sur le piano depuis qu'il a été rapporté de la poste du coin par un descendant bienveillant. Je faisais donc de mon mieux pour trouver les mots et les images qui leur permettraient de comprendre que ce nouveau machin dont ils entendaient parler était différent de ce qu'ils avaient connu et qu'il portait en lui nombre de possibilités absolument incroyables. Mais je voyais bien que ça ne prenait pas. Ils hochaient la tête et disaient « Ah oui, oui, oui », gentiment, mais à chacun de mes silences, ils espéraient que s'achève là ma tentative d'explication à l'enthousiasme un peu pathétique. Dans un premier temps, j'ai pensé qu'ils ne pouvaient pas comprendre et que je me retrouvais dans la situation du pauvre Jean de Léry quand, au milieu du XVIe siècle, exilé quelques mois dans la baie de Rio au milieu des Indiens toupis dont il avait appris la langue, il entreprenait de leur expliquer qu'en Europe, nous avions quelque chose qui s'appelait l'argent, qui nous servait à faire du commerce, que c'était super, et que les Indiens le regardaient avec des yeux ronds en lui disant qu'il fallait être bien étrange pour inventer un truc aussi inutile. Donc, dans un premier temps, je vis mes vieux grands-parents comme des sortes de toupies temporelles, des gens d'un autre monde projetés dans le siècle des ordinateurs connectés. Puis, en y réfléchissant, je me suis dit qu'il devait s'agir d'autre chose. Vous demandez où je vais en venir, Guillaume ? C'est ça ? Moi
non,
aussi.
Non, pas du tout. Vous voulez parler de vos grands-parents et j'y suis très sensible.
Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas comprendre Internet. Après tout, dans leur vie, ils avaient connu bien d'autres changements. Quand on est né en 1909, année où Louis Blériot traverse la Manche pour la première fois avec un avion et qu'on arrive à la fin du XXe siècle, on a croisé nombre de nouvelles technologies qui n'étaient pas forcément plus simples ni à utiliser ni même à comprendre. Pourquoi celles-ci ne les intéressaient-elles pas ? L'âge, me direz-vous, tout simplement l'âge. Peut-être que cette nouveauté-là était celle de trop, peut-être que cette fois, ils renoncer à faire l'effort, et que leur silence parlait moins d'Internet que de ce moment de la vie où on abandonne l'idée de comprendre complètement le monde qui vient, parce qu'on sait que ce monde, on ne l'habitera pas, ou alors un temps suffisamment court pour s'en tirer avec nos vieilles connaissances. C'est pourquoi, depuis ce moment-là, je crains terriblement de vivre ce moment, qui serait donc le signe que la fin approche. Et c'est pourquoi je suis très reconnaissant à France Culture, qui, en me payant pour comprendre ce qui se passe dans le monde numérique, m'oblige à retarder l'instant fatal du renoncement. Mais voilà que hier soir, en écoutant les candidats de La République En Marche expliquer que les résultats du premier tour de ces élections législatives étaient le signe d'un renouvellement profond de la vie politique française, que tout allait changer avec l'entrée dans l'hémicycle de ces députés neufs en politique, je me suis retrouvé projeté à la place de mes grands-parents quand je leur expliquais qu'Internet allait tout changer. J'ai donc eu peur. Ça y est, me suis-je dit, ce monde ne m'intéresse plus. Ça y est, c'en est fini, la mort approche. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait une autre interprétation à donner à la circonspection qui était la mienne, mais aussi peut-être celle de beaucoup de gens qui hier ne sont pas allés voter. S'intéresser aux nouvelles technologies oblige sans cesse à trier, au milieu de toutes les promesses qui sont faites et de toutes les analyses très euphoriques ou très dysphoriques qui accompagnent la moindre avancée technique, ce qui change et ce qui ne change pas. Mais alors, ce qui change et ne change pas, vraiment ? C'est même ça qui nous permet de nous prémunir contre tous les discours marketing venus des marchands de ces technologies. La circonspection, pardon, devient un réflexe. Oh, mais arrêtez. J'en arrive au moment hyper tragique de mon explication et vous rigolez. La circonspection devient un réflexe
dysphorique.
La circonspection devient un réflexe nécessaire, mais un réflexe qu'il faut acquérir. Savez-vous que les recherches en sciences cognitives ont montré que quand on présente au regard un objet qui bouge et un autre qui est immobile, on ne voit presque que celui qui bouge. On serait donc biologiquement conditionné à mieux percevoir le mouvement que l'immobilité. Alors voilà, ces vieux grands-parents. Peut-être avaient-ils atteint ce moment où la vue s'équilibre, où on voit aussi bien ce qui change et ce qui ne change pas. Peut-être y avait-il là une forme de sagesse, non pas à craindre, mais à espérer, celle qui fait fi des perceptions pour que les immobilités et les permanences apparaissent à nouveau derrière tous les mouvements agités.
Merci beaucoup.
C'est clair
ou pas ? Oui, c'est tout à fait clair. On va parler d'immobilité avec Jean-Fabien Spitz, notre invité. Est-ce que ce vocabulaire du nouveau et finalement cette prime accordée au renouvellement, est-ce quelque chose de complètement nouveau là aussi ou bien est-ce que finalement ça fait partie des rhétoriques politiciennes classiques?
Bah, je crois qu'il y a quand même des choses qui vont changer, notamment de façon très importante. On va quand même connaître un renouvellement très très profond de la façon dont l'économie en particulier est gérée, et je pense que les gens vont sentir les conséquences dans leur existence, les salariés et d'autres. Donc oui, effectivement, on a tendance à avoir l'œil attiré par ce qui paraît nouveau, qui n'est quelquefois pas aussi nouveau que ça en a l'air. Mais là, je crois qu'on est quand même face à une mutation profonde, et à une mutation profonde qui a quand même des caractéristiques assez précise, c'est-à-dire qu'elle est nouvelle en France, mais elle n'est pas nouvelle ailleurs. On la connaît hein, depuis 20, 30, 35 ans aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, dans beaucoup d'autres endroits. Donc on est déjà en mesure d'en observer les effets, et puis on est aussi en mesure d'en observer les effets politiques. Donc il y a un laboratoire ici dont il faut pas négliger l'importance, et les enseignements sont quand même très très mitigés.